Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bienvenue sur Radio Classique, il est 8h.
h 30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Et un passionnant livre de mémoire de Jean-Pierre Chevènement qui appelle Emmanuel Macron à renouer avec l'électorat de gauche, car d'après Chevènement, l'électorat de gauche ne se reconstituera pas d'ici la prochaine présidentielle. Et si Le Pen est élu, je parle de Jean-Pierre Chevènement, ce n'est pas un souhait, dit-il, nous prenons le risque de la guerre civile. Voici les titres du journal. Une journée sous le signe de la colère. Colère noire des restaurateurs marseillais et aixois ce matin. Obligés de fermer 15 jours à partir de samedi pour freiner le Covid-19 ou la Covid-19. Reportage dans ce journal. Colère aussi à Paris où les bars et restaurants, eux, fermeront à 22h à partir de lundi. Incompréhensible pour les professionnels, vous les entendrez. Et puis Saint-Germain des Prés perd sa muse, et la France aussi d'ailleurs. Juliette Gréco nous a quittés hier, on en parle depuis le début de la matinale, mais nous continuerons de l'entendre. Et on rendra hommage à Pierre Troisgros, lui fut une légende. Alors c'est évidemment tout à fait différent de la gastronomie. Il est décédé lui aussi hier. Il est 8h01, vous êtes sur Radio Classique, voici cette chère Lucille.
Radio Classique.
On commence avec la grosse colère des restaurateurs marseillais.
Qui ne digère pas de voir baisser purement et simplement, Guillaume, le rideau à partir de samedi pour 2 semaines pour l'instant. C'est la grosse annonce d'Olivier Véran hier soir, le ministre de la Santé, la deuxième ville de France qui se réveille en zone d'alerte maximale comme la Guadeloupe. Pour les patrons de bars et restaurants, c'est un véritable choc. Le reportage à Marseille de Stéphane Burgat pour Radio Classique.
La colère et l'amertume l'emportent pour beaucoup, comme Jacques, derrière le comptoir de son bar tabac.
C'est justice à deux vitesses, parce qu'on ferme les bars et les restaurants, parce que le virus ne circule pas dans les centres commerciaux, effectivement, dans les salons de coiffure, ça, il ne circule pas le virus. Il est interdit d'accès. Il rentre que dans les bars et que dans les restaurants. Enfin, tout ça, c'est que du bidon.
Et ces mesures du ministre de la Santé risquent d'être contre-productives, estime Jamila, gérante d'un bar-restaurant.
Si les gens veulent se réunir d'une façon ou d'une autre, ils iront en supermarché acheter de l'alcool. Et là, je pense qu'on va encore plus faire courir de risques, parce qu'on n'aura aucune surveillance.
Pour Polo, patron d'un petit troquet de quartier depuis 47 ans maintenant, c'est peut-être le coup de grâce.
C'est très dur, ça continue et je ne sais pas quoi faire. J'ai perdu 70% de ma clientèle, je ne fais plus rien. J'ai 3 employés, j'en ai débauché d'autres. Si ça continue comme ça, je vais rendre les clés. Hein.
Et tous doutent des aides promises par le ministre comme de l'objectif que ces mesures ne durent pas plus de 2 semaines.
Une décision vécue comme une punition collective, dénonce ce matin en cœur les élus locaux pris sans concertation, assure même la maire de Marseille, Michel Rubirola.
Cela étant dit, quand vous rentrez à un supermarché, beaucoup de gens gardent leur masque. Idem d'ailleurs dans les salons de coiffure, et c'est pas vraiment le cas souvent dans les bars, il suffit de se promener dans Paris le soir.
Pour freiner la progression du Covid-19, 11 métropoles basculaient en zone d'alerte renforcée. C'est le cas de Paris, Lille, Toulouse, entre autres, interdiction de s'y rassembler à plus de 10 personnes. La jauge des événements publics, elle est abaissée à 1000. Les salles de sport doivent également baisser le rideau.
Et les bars et restaurants fermeront tous à 22h. À partir de lundi prochain, Lucille.
Et c'est une catastrophe pour les professionnels du secteur. Pour Franck Delvaux, le président de l'UMIH Paris-Île-de-France, qui les représente, c'est tout simplement une ineptie, l'a dit à Émilie Vallès.
C'est une douche froide. Ça a été fait sans aucune concertation. Et moi, j'ai une question au ministre. Où vont aller les clients après 22h? Où vont-ils aller se coucher? Je crois pas une minute. Hein. Ils vont aller dans des appartements où ils vont continuer la fête. Donc, c'est une ineptie complète. Il aurait mieux valu coupler ça avec l'interdiction de vente d'alcool dans les magasins après 20h. Or, j'en ai pas entendu parler. Les gens vont continuer à se voir chez eux et à continuer à boire, à faire la fête sans aucun protocole sanitaire. Et en plus, on va mettre par terre tous les bars de Paris et de la région parisienne qui seront en dépôt de bilan ou en faillite dans les mois à venir.
Des mesures draconiennes prises alors que le nombre de contaminations repart à la hausse. Plus de 13 000 nouveaux cas ont encore été identifiés hier dans notre pays.
Voilà, et pour la plupart d'entre eux, il s'agit de gens qui ont moins de 45 ans. Donc effectivement, Au-delà du problème des professionnels, il y a un problème de prise de conscience d'une partie de la jeunesse qui ne se sent, depuis le début de cette affaire, peu ou pas concernée par cette épidémie de Covid-19. Un tour de vis pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable.
Car les lits en réanimation, Guillaume, se remplissent les uns après les autres. 92% par exemple sont occupés dans le Rhône. Alors pour Philippe Juvin, le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, il fallait agir, même si pour lui, la stratégie n'est pas très lisible.
Pour être très franc, j'ai dû relire 2-3 fois pour comprendre. Donc je pense qu'il va y avoir un effort de pédagogie à renforcer. Mais plus que de la pédagogie, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est la confiance des Français. Parce que vous avez beau édicter toutes les règles que vous voulez. Si les gens n'ont pas confiance, ils n'appliquent pas. Et puis, ça n'aura aucun effet. Si on en arrive à cette situation, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait depuis 6 mois. Depuis 6 mois, il aurait fallu ouvrir des lits de réanimation, des lits d'hospitalisation. Et évidemment, comme on n'a rien fait, on se retrouve dans une situation assez similaire au point de vue de la tension du système de santé au mois de mars. Et ça, on aurait pu l'éviter.
Philippe Juvin, le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, joint par Rémi Pfister. Dans le reste de l'actualité, Total s'apprête à dévoiler son plan de reconversion pour la raffinerie de Grandpuy en Seine-et-Marne. Le groupe promet toutefois qu'il n'y aura pas de licenciement.
C'est un témoin clé, Lucille Bréau, qui sera entendu aujourd'hui au procès des attentats de janvier 2015.
Son nom, Peter Sherif. On le présente comme le commanditaire présumé de l'attentat de Charlie Hebdo. Beaucoup auraient aimé le voir évidemment dans le box des accusés, mais il était trop tard quand il a été arrêté au Yémen pour qu'il puisse être envoyé dans ce procès. C'est donc comme témoin qu'il va être entendu par la cour d'assises. Eric Kioch.
Commanditaire ou simple maillon de la chaîne, quel rôle a joué Peter Sherif dans les attentats de janvier 2015 et quelle influence a-t-il eu sur Sherif Kouachi? C'est ce que cherchera à comprendre la cour. Au cœur des interrogations, l'été 2011, à cette époque, Peter Sherif, alors haut gradé d'Al-Qaïda, est rejoint par Sherif Kouachi au Yémen. Ces deux-là se connaissent depuis l'enfance, même passé délinquant, même radicalisation au sein de la filière des Buttes-Chaumont. La justice soupçonne donc Peter Sherif d'avoir, lors de ses retrouvailles, introduit son ami Sherif Kouachi au sein d'Al-Qaïda, de lui avoir donné l'ordre d'attaquer Charlie Hebdo et de l'avoir entraîné militairement. Mais lors de son interpellation en 2018, Peter Sherif affirme ne pas avoir été informé de l'opération. Reste à savoir aujourd'hui s'il maintient cette version ou s'il en dira plus afin de lever un peu le voile sur les nombreuses zones d'ombre de ce dossier.
Eric Kioch, aux États-Unis, la tension monte à Louisville, dans le Kentucky, sur fond de manifestations antiracistes. Cette nuit, 2 policiers ont été blessés par balles là-bas, après l'annonce par la justice américaine de ne pas inculper les policiers impliqués dans la mort de Breonna Taylor, cette afro-américaine de 26 ans, tuée par erreur dans son appartement par 3 policiers en mars dernier.
Voilà, et quand on regarde cette nuit, mais pour eux c'est le jour, les chaînes de télévision d'information américaines, on a vraiment l'impression qu'il règne actuellement aux États-Unis une sorte d'ambiance de guerre civile. Et avant de réentendre la merveilleuse Juliette Gréco qui nous a quittés hier, un hommage ce matin à une légende de la cuisine française, Pierre Troigros.
Il nous a quittés hier à l'âge de 92 ans, triplement étoilé et connu pour son mythique saumon à l'oseille. L'hommage ce matin sur Radio Classique de Pierre Gagnère, le chef multi-étoilé qui a commencé lui sa carrière à Saint-Étienne, à quelques kilomètres du fief de la dynastie Troigros.
C'est quelqu'un de malicieux, c'était quelqu'un de gentil. Le monde entier connaît ce plat, le saumon à l'oseille, mais un plat d'une simplicité absolue, mais qui était malin, pas si facile à faire que ça d'ailleurs. Il faisait un pâté de grive, mais qui était juste incroyable. Le pavé de bœuf au fleuri, avec la moelle, enfin, des choses qui semblaient comme ça toutes bêtes, mais qui étaient tellement, tellement novatrices et tellement bonnes.
Voilà l'hommage d'un très grand chef à un autre, Guillaume.
Voilà encore un regret de ne pas y avoir été dans son restaurant de son vivant, mais il y a toute la famille.
Toute la famille,
le saumon à l'oseille, c'est l'heure du petit déjeuner, mais après tout, pourquoi pas.
Ça nous donne faim.
La manière dont vous rendez hommage à Juliette Gréco me plaît, c'est ne me quitte pas, mais ce n'est pas la version de Brel, qui était une version, comment peut-on dire, de l'homme qui suppliait la femme de ne pas le quitter. Dans le cas de l'interprétation de Gréco, on sent quelque chose de plus ironique, de plus... Écoutez.
Ne me quitte pas. Je vous oubliais. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu. À savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur.
Une version donc qui est elle aussi assez théâtrale, mais qui était une version justement très différente de celle de Brel. Et c'est l'avantage effectivement des réinterprétations que de ne pas copier. Il est 8h09, le Tché vient de rentrer dans ce studio accompagné de Guillaume Tabar, qui ce matin n'est pas son porte-flingue, mais l'éditorialiste politique de Radio Classique. et évidemment du Figaro. Bienvenue Jean-Pierre.